Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, ravi de vous retrouver en direct comme à chaque fois avec en face à face Gabriel Cluzel, bonsoir, ravi de vous accueillir, et Philippe Guibert, bonsoir Philippe Guibert. On attaque, vous le savez, dans cette émission tout de suite avec le premier sujet et les migrants de Lampedusa qui sont en France, notamment à Paris, pas tous, mais un certain nombre. Que doit-on faire? C'est la question que je vais vous poser dans quelques instants. Mais avant de développer, dans la capitale, c'est dans le jardin d'Éole, au nord, que ces migrants se regroupent. Les riverains constatent un afflux régulier depuis quelques jours. Mickaël Dos Santos et Marine Sabourin.
Entre les nouveaux migrants installés au nord de la capitale et les habitants, la cohabitation est difficile.
Il se bat, il fait des problèmes. Très souvent, comme je sors ou j'entre, il me fait peur.
J'imagine par exemple une dame, une petite fille qui rentre de son sport ou je sais pas, ça doit pas être un sentiment. En tout cas, on se sent pas en sécurité, c'est tout à fait normal.
Un constat partagé par Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France.
On constate effectivement depuis l'arrivée massive de migrants à Lampedusa qu'il y a effectivement aujourd'hui des arrivées à Paris. On le constate et c'est d'autant plus une situation qu'on pouvait anticiper. Il y a énormément de problèmes de toxicomanie et que je crois que c'est criminel de laisser s'installer sciemment des migrants, donc des populations dans un état de détresse humanitaire au milieu de consommateurs et surtout de trafiquants de crack.
À la mairie de Paris, cet élu de l'opposition réclame des mesures fortes.
J'appelle de mes voeux un grand plan d'urgence pour le nord-est de Paris pour sortir les personnes migrantes de la rue. C'est la dignité qu'on leur doit. Et ainsi régler le problème des riverains qui, en première ligne, subissent des nuisances et des désagréments.
Pour cet élu, la solution passe également par l'Europe. En ce moment, les 27 pays membres échangent sur une réforme de la politique migratoire.
La question que je vous pose, Gabriel Cluzel, pour commencer, faut-il donc accepter d'accueillir ces migrants désormais? On se souvient quand même que notamment Gérald Darmanin avait dit, à l'époque de la crise de Lampedusa, pas un seul ne rentrerait sur le territoire français. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il faut donc se résoudre à les accepter, à les accueillir. Et les accueillir de quelle manière? Est-ce qu'on a cette capacité?
Ce que vous dites est tout à fait juste et en dit long sur la parole du gouvernement. Vous savez, ça rappelle les 100% d'OQTF exécutés, promis par Emmanuel Macron, je crois que c'était en 2019, on voit qu'on en est péniblement à 7. C'est le chiffre le plus bas. Et là, Gérald Darmanin, de fait, avait dit, urbi et orbi, que les migrants de Lampedusa ne viendraient pas en France. Et aujourd'hui, ils sont à Paris. Donc c'est déjà extrêmement inquiétant en soi, parce que forcément, les Français se disent, mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Et est-ce que sa parole vaut quelque chose? Donc là, on voit que le jardin d'Éole, puisque vous avez cité cet exemple tristement célèbre, un joli nom, mais tristement célèbre pour ses consommateurs de crack, voit arriver une nouvelle misère. Donc c'est la misère qui se rajoute à la misère. Elle n'en peut plus, ils n'en peuvent plus, les habitants n'en peuvent plus. Mais ils ne sont pas les seuls. Et vous disiez, est-ce qu'on doit les accueillir? Mais imaginez une maison, et en l'occurrence c'est la Maison France, une maison avec des personnes qui viennent chez vous sans y avoir été invitées, en nombre. Est-ce que vous êtes tenus de les répartir chez vous au risque de nuire à vos propres enfants? Non, bien sûr, ça paraît complètement fou de défendre ce genre de thèse. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les migrants. C'est que nous nous disons, il n'y a pas d'autre choix que d'accueillir ces personnes venant de Lampedusa. C'est évidemment un signal épouvantable parce que cela dit à ceux qui voudraient venir, écoutez, on va se débrouiller, faites-en autant. Alors, si on est persuadé que toute la peut se déverser en Europe, eh bien, continuons comme ça. Si nous pensons que ce n'est pas possible, il va falloir prendre des mesures drastiques, mais on n'en prend pas le chemin.
Est-ce que cela veut dire, Philippe Guibert, que la population française, celle du jardin d'Éole ou ailleurs, également est mise au pied du mur en étant obligée, pardon pour le terme, d'accepter ces migrants, ou au nom de la solidarité, tout simplement, faut-il aussi les accepter? La France est un pays d'accueil. normalement.
Oui, mais c'est la pire manière de gérer l'immigration. On peut défendre l'idée qu'on a besoin d'une certaine immigration, mais là, ce à quoi on assiste est évidemment la pire des modalités d'immigration. Alors, petite remarque, Gérald Darmanin avait quand même mis, après la virgule, nous n'accueillons personne de Lampedusa, nous accueillons quand même les demandeurs d'asile, puisque c'est une convention internationale, et que la France, comme les autres pays d'ailleurs, est tenue d'accepter des demandes d'asile, bon, même s'ils sont entrés clandestinement sur le territoire.
Ils ne sont pas tous, pardonnez-moi Philippe Guibert, ce ne sont pas tous des demandeurs d'asile. Il y a aussi des migrants économiques.
Oui. Il n'y a aucun doute là-dessus qu'il n'y aura pas 100% de droits d'asile accordés à ces migrants et qu'en plus tous les spécialistes vous disent qu'en fait c'est un mélange souvent de raisons économiques et politiques, ce qui fait qu'accessoirement les dossiers sont particulièrement difficiles à gérer pour les personnes qui examinent les demandes d'asile. Deuxième remarque, évidemment ces migrants clandestins ou en instance de demande d'asile arrivent toujours dans les pires endroits. C'est-à-dire qu'ils s'entassent ou on les dirige, je ne sais pas comment ça se passe, ou par des contacts qu'ils ont en France, ils arrivent effectivement dans un lieu qui est, dont on sait, le quart nord-est parisien, qu'il est un peu pourri par le trafic de drogue. Et tout ça peut avoir des conséquences graves, dans la mesure où ce sont des personnes dans une grande précarité, qu'on sait très bien, l'expérience, hélas, depuis plusieurs années le montre, que les réseaux de trafiquants peuvent récupérer ces migrants clandestins pour les mettre dans les réseaux. Donc tout ça peut avoir des conséquences en chaîne tout à fait déplorables. Et je comprends que pour les riverains, ils ne voient pas ça d'un très bon œil dans un lieu, dans un quartier qui est déjà sinistré. Le problème est quoi faire et comment faire. La grande difficulté, je la mentionne juste, c'est on peut les expulser s'ils n'ont pas fait de demande de droit d'asile. Mais où les renvoyer, puisque leurs pays sont lointains, n'acceptent pas toujours de recevoir des ressortissants. Quelle est la preuve qu'on peut apporter de leur nationalité? Ils ont fait des milliers de kilomètres, ont risqué leur vie dans des bateaux. Comment fait-on pour les renvoyer dans leur pays qu'ils ont fui? Et en plus, ils viennent de Tunisie, puisqu'on va pouvoir arriver à Lampedusa, ils viennent de Tunisie, où le président tunisien fait un chantage à la migration dans les négociations actuelles avec l'Union européenne. Donc il y a une dimension française, il y a une dimension européenne, il y a une très grande difficulté à expulser. Tout ce que je dis là, je suis parfaitement conscient que c'est un constat très désagréable et dont on ne peut pas se satisfaire. Mais c'est le principe de réalité qui nous le dit.
En effet, oui, c'est la réalité, et d'autant que la France n'a pas la capacité aussi, Gabriel Cluzel, de les accepter dans la dignité. On l'a entendu tout à l'heure dans le sujet, quelqu'un parlait de les accueillir avec dignité. Ouais.
Non, la réalité, ce serait de faire appliquer la loi. L'utopie, c'est d'essayer de tous les accueillir et de faire croire aux habitants de ces pays que nous pouvons tous les accueillir. Vous avez parlé du droit d'asile, nous savons tous qu'il est dévoyé, ce droit d'asile, que d'ailleurs les associations pro-migrants donnent les ficelles pour trouver le bon discours qui permettra d'essayer de décrocher un droit d'asile. Oui, non, mais voilà. Et ceux qui seront déboutés, de toute façon, ne quitteront pas la France. Donc c'est un peu une discussion de faux semblants. Par ailleurs, il faut voir que un pays qui n'a plus de frontières aujourd'hui, nous n'avons plus de frontières. Il n'y a plus de frontières en France, il n'y a plus de frontières en Europe. Vous savez, un pays qui n'a plus de contours, c'est un pays qui s'efface, qui n'existe plus. Et visiblement, nous ne sommes pas capables de faire respecter nos frontières. Moi, j'ai été très frappée par cet accord qui est discuté par l'Europe. Alors, la secrétaire d'État à l'Europe a dit que, les pays qui ne voudraient pas, pas gentils, qui ne voudraient pas accueillir les migrants, devraient débourser 20 000 euros par migrant. Alors déjà, en creux, ça donne le coût que cela représente pour nos populations. C'est quand même extrêmement lourd. Pourquoi, là encore, on est vraiment dans le théâtre de l'absurde. Pourquoi devrions-nous payer pour des gens qui sont venus chez nous qui sont venus illégalement chez nous. Donc tout cela est quand même complètement fou et c'est normal que les populations aujourd'hui soient indignées de ce décalage entre ce qu'elles pensent et le discours politique.
On peut avoir des indignations et en partie justifiées. Je constate simplement que Mme Meloni, élue sur un programme en gros d'immigration zéro, en disant « vous allez voir ce que vous allez voir, moi je vais m'occuper sérieusement du problème », elle a depuis, mais je ne dis même pas que c'est de sa faute, hein, elle a depuis le début 2023 120 000 personnes qui sont entrées clandestinement sur son territoire en passant par Lampedusa ou des ports italiens. Et que fait-elle? Est-ce qu'elle montre ses muscles? Est-ce qu'elle continue à avoir un discours en disant vous allez voir ce que vous allez voir? Non.
Elle est pieds liée avec l'Europe.
Elle est pieds liée.
Oui, puis l'Italie est plus pieds liée que la France. Hein,
oui, mais je termine. Excusez-moi, elle a été élue sur un programme, sur un discours où elle allait résoudre la crise des migrants. Elle ne l'a pas résolue. Et je constate qu'elle, elle ne décide pas de faire une crise avec l'Europe en jouant solo. Qu'elle estime, et peut-être n'a-t-elle pas tort, qu'il faut peut-être mieux essayer de coopérer que de jouer solo. Parce qu'il faut arrêter de se raconter des histoires quand même. Cette crise migratoire, beaucoup l'ont dit, elle est devant nous autant qu'aujourd'hui et hier. Et donc elle est loin d'être terminée. Et que pour faire face à cette crise migratoire, il faudra bien qu'on essaye de trouver des règles, des freins, des moyens de permettre aux gens de rester dans leur pays, parce que c'est quand même ça le point fondamental, et que tout ça, ce n'est pas l'Italie toute seule, la France toute seule, et l'Espagne ou d'autres pays méditerranéens comme la Grèce, qui par ailleurs a une filière d'immigration très forte en mer Égée, qui vont y arriver tout seuls. Donc, oui, on est face à une situation qu'on ne sait pas gérer, soyons très clairs.
Mais
penser qu'on va la gérer tout seul avec nos primes musclées, excusez-moi, Madame Meloni, depuis un an, est la démonstration du contraire.
Est-il possible, Gabriel Puzel, de l'anticiper cette crise quand on a un président, le président Macron, qui sur TF1 et France 2, il y a quelques jours, disait « on ne peut pas », pour paraphraser notamment notre politique, Michel Rocard, « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », quand, vous parliez tout à l'heure des frontières, les contrôles aux frontières ont été renforcés. Néanmoins, les migrants passe tout de même, ce sont des frontières qui sont gruyères. Comment on peut anticiper une crise dans ces conditions-là?
Vous savez très bien que tout cela, ce sont des signaux un peu gadgets vers une population qui est inquiète. Donc Emmanuel Macron se dit, il faut quand même envoyer un signal positif en disant on s'occupe d'immigration. Mais c'est le même qui va dire que dans les métiers en tension, on va régulariser tout le monde. Vous savez, il y a un principe premier du droit qui dit, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est-à-dire que quand vous faites un acte illégal, c'est-à-dire que vous rentrez en France, vous ne devriez jamais être régularisé. Ce devrait être un principe de base. Or, une fois de plus, Emmanuel Macron, c'est Janus, hein, c'est toujours les deux visages, c'est le en même temps, il souffle le chaud et le froid. La vérité, c'est qu'on ne fait rien pour l'immigration. Nous parlions de l'Europe, il y a deux pays, la Hongrie et la Pologne, qui résistent. Ils résistent envers et contre tout. Tant pis, on les regarde comme les grands méchants loups. Ils résistent, ils écoutent leur peuple
ils
font en sorte de répondre aux attentes. Par ailleurs, vous parliez de Giorgia Meloni, n'oubliez pas que c'est amusant parce que c'est un peu la rhétorique et après je vous laisse la parole. La rhétorique de tous ceux qui comme vous, qui se réjouissent finalement de l'avoir échoué. C'est-à-dire,
non, je ne me réjouis pas, je constate simplement, j'essaye de faire une analyse factuelle.
En fait,
c'est pas une question de se réjouir ou de s'attrister.
J'ai vu le discours d'un certain nombre de gens de gauche évoluer. C'est-à-dire qu'autrefois, ils disaient c'est l'immigration heureuse, la diversité nous enrichit. Puis aujourd'hui, ils nous disent on ne peut rien faire, regardez Giorgia Meloni. Mais vous savez pourquoi elle n'y arrive pas?
Je vais vous répondre quand même,
parce que
les sujets s'accumulent, après
la gauche l'a empêché que les fonds soient versés.
Et la question sous-jacente, je vous cède la parole, Philippe Guyer, la question sous-jacente, c'est est-ce que l'immigration est utile, indispensable à un pays comme la France? C'est
aussi il y a des domaines où il y a l'immigration utile et parfois indispensable. Il y a.
J'ai pas le sentiment que tout le monde pense la même chose.
Oui,
hein,
mais personne de sérieux peut estimer qu'on va faire immigration zéro. Excusez-moi. Hein. Enfin, ça n'a aucun sens. Non seulement c'est juridiquement, au regard des textes internationaux qu'on a signés, complètement en dehors des clous, mais même du point de vue des stricts besoins du pays. Supprimer les médecins dans un centre d'hôpitaux, j'ai pu l'expérimenter personnellement, par exemple, en l'occurrence, moi j'ai connu des médecins marocains, les hôpitaux seraient bien embêtés. Et vous n'allez pas fermer les universités à tout étudiant étranger, ou alors vous renoncez à envoyer des étudiants dans d'autres... un pays qui est complètement claquemuré, qui est fermé sur lui-même, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et ça ne peut pas exister. Et c'est heureux que d'une certaine manière, ça ne puisse pas exister. La gauche que j'ai défendue, parfois même au gouvernement, n'a jamais dit l'immigration heureuse. Je suis désolé, il y a une gauche républicaine qui a gouverné et qui a toujours considéré qu'il fallait lutter contre l'immigration clandestine. Je ne veux pas vous citer la litanie des ministres de l'Intérieur de Jean-Pierre Chevènement à Manuel Valls. Donc, c'est pas ça le débat. C'est le débat, c'est comment on fait. Et de sortir des déclarations un peu faciles qui consistent à dire on va y arriver. Le problème, c'est qu'on aille face à une crise migratoire de très grande ampleur, qu'on ne veut pas regarder la situation des pays de départ. Qu'on ne veut pas les regarder où se mélangent des problèmes économiques, des problèmes politiques de guerre civile ou de guerre entre pays, des problèmes climatiques, parce que ça commence à jouer dans un certain nombre de pays où ça devient invivable, qui renforce les problèmes alimentaires ou qui renforce les problèmes économiques. Donc on a une immigration qui est, d'ailleurs c'est Nicolas Sarkozy, c'est pas un homme de gauche qui l'a dit, la crise migratoire est devant nous et d'autres spécialistes le disent. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour qu'effectivement on ne soit pas submergé par une immigration clandestine qui déstabiliserait nos sociétés. En revanche, de dire qu'on va faire immigration zéro, c'est à la fois absurde du point de vue de notre place dans le monde. Je vous signale au passage, vous avez cité la Hongrie et la Pologne, mais on pourrait parler du Danemark. C'est beaucoup plus facile d'avoir des politiques très musclées quand la géographie vous sert. Quand vous êtes l'Espagne, l'Italie ou la France, quand vous avez une côte méditerranéenne et que vous avez des migrants qui arrivent à quelques milliers de kilomètres, on pourrait y parler de la Grèce, vous tenez pas le même discours que la Hongrie et la Pologne qui sont, ils ont d'autres problèmes, notamment avec la Russie, mais ils ont pas du tout la même rapport que nous à l'immigration. C'est beaucoup plus facile pour eux de tenir ce discours.
Oui. Gabriel Cluzel, je voudrais juste vous faire écouter avant la pause également, et la question sera, est-ce que c'est l'échec de la politique migratoire de l'Europe ou de la France avec ce migrant que l'une de nos équipes a rencontré, dans le nord-est de Paris notamment, qui est en France depuis 6 ans, sans papier, et qui est entré sur le territoire illégalement. Écoutez.
Oui, du coup, j'ai oublié de répondre sur... Est-ce qu'on doit régulariser des...
Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé en France ?
Ça fait 6 ans.
Et est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes arrivé ici ?
Non, oui.
Comment ? Vous pouvez pas me raconter ?
Ouais.
Pourquoi ? C'est compliqué ?
C'est pourquoi le bloquer, ouais.
Pourquoi ? C'était dangereux ? C'était compliqué ?
Non, c'est pas dangereux.
Pas dangereux ? C'était pas dangereux de venir en France ?
Non, c'est pas dangereux.
Vous êtes venu en bateau, avec une personne qui vous a accompagné ?
Oui, en bateau.
En bateau ? Depuis le Soudan ou vous êtes passé par un autre pays ?
Libye.
Vous êtes passé par la Libye ?
Oui.
Donc Soudan, Libye en bateau ?
En bateau, ouais.
Et après la Libye ?
Après la Libye, ouais.
Après, vous avez fait Libye et après ?
Après l'Italie.
Italie, d'accord.
Ouais. Après en France.
Transformé.
Cela fait 6 ans, Gabriel Cluzel, que ce Soudanais est sur le territoire français.
Oui, il n'est sans doute pas le seul. Et ce Soudanais, l'exemple frappant de l'impéritie du pays qui est incapable déjà de compter le nombre de personnes illégalement sur son territoire, qui même quand elle se rend compte qu'un migrant est en situation illégale, elle est incapable de le renvoyer chez lui. Il y a toute une batterie d'associations qui prennent en main ces migrants pour faire en sorte qu'ils ne repartent jamais. Vous vous rendez compte ? 6 ans. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Philippe Guibert. Bien sûr que si. Ça tombe bien. Voilà. Les frontières, on peut les fermer. Je vais vous donner un exemple. La crise du Covid, on a fermé les frontières.
Non,
voilà. Quand on est dans une... Ah bon, bah écoutez, vous arrivez à voyager, pas moi. Hein. Quand on est dans une crise migratoire de telle ampleur qui, je crois, sur le franchissement des frontières par des pays étrangers, il n'y a pas, par des personnes étrangères à son sol, il n'y a pas de précédent dans une époque récente. Donc c'est vraiment une situation extrêmement sérieuse. On pourrait décréter, comme on l'a fait pour le Covid, de fermer ses frontières. D'accord. Par ailleurs, votre discours. Moi aussi, j'essaie de vous répondre. J'entends votre discours. Les médecins, c'est comme tous les métiers en tension, Uber Eats, etc. Mais je ne sais pas pour... ne le prenez pas mal, mais c'est un discours néocolonial. Voyez, parce que on dit nous autres Français, nous ne voulons pas faire ces métiers ou
mais
nous
non,
n'avons
pas
assez de personnes pour faire ces métiers. Je remarque que la
c'est
médecine,
pas
c'est parce qu'on n'a pas ouvert le numerus clausus.
Oui, voilà,
donc
c'est
on va aller
ça.
Prendre les médecins d'autres pays. Allez en parler aux Sénégalais. Ils vous diront, mais nous, nos hôpitaux n'ont plus de médecins. Nous n'avons plus de médecins. Et quant à ceux qui ramassent dans les champs les arbres fruitiers, les vignes, etc., il y a eu un procès récemment en Champagne pour traite humaine, tellement ils étaient maltraités. C'est-à-dire qu'on se dit, les Français, nous, on est trop bien pour faire ces métiers-là, donc on prend des migrants. Moi, je vous propose quelque chose, c'est Uber Eats, par exemple. On arrête, les gens iront chercher leurs courses à l'épicerie d'à côté. On a fait ça pendant des années, ça s'est très bien passé.
Philippe Guibert, pour conclure, nous reste une minute avant la pause. Je laisse le mot de la fin.
Non, mais le débat est intéressant.
Évidemment.
Sur les régularisations de sans-papiers, ce que propose le gouvernement dans son texte de loi n'est pas une régularisation générale. Il y a une condition de durée, il y a une condition de travail. Vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes, mais la turpitude, elle est autant du côté du commerçant ou de l'entreprise que du côté du migrant qui, lui, a juste cherché du boulot.
Mais le migrant, il est rentré illégalement.
Oui, d'accord, mais il travaille. S'il travaille depuis un certain nombre d'années, qu'il pratique le français, que son travail est stable, qu'il y a toute une série de conditions, je ne trouve pas ça scandaleux en soi que des personnes qui, accessoirement, contribuent à l'économie du pays et devraient avoir droit à des cotisations, soient régularisées sur des critères absolument précis. Deuxièmement, le contrôle des frontières. Vous prenez l'exemple du confinement. Bon, je pourrais raconter plein d'anecdotes personnelles sur le fait que l'Allemagne a fermé ses frontières avant nous. On nous a beaucoup reproché de ne pas avoir freiné. Et tout le monde pouvait passer en voiture à la frontière franco-allemande. Donc ne nous racontons pas trop d'histoires. On met, effectivement, le gouvernement met des policiers aujourd'hui à la frontière franco-italienne. Sauf que simplement, quand vous connaissez un petit peu la frontière franco-italienne, vous savez très bien qu'on peut passer par de multiples endroits et les filières de migrants connaissent ces endroits.
Notamment Briançon en montagne.
Absolument. Ne nous racontons pas d'histoire sur le fait qu'on va pouvoir boucler le pays. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne racontons pas ça aux gens, c'est de la démagogie. On n'a jamais réussi à le faire, d'ailleurs, même il y a très longtemps. Aujourd'hui, ça demanderait des moyens qui ne permettraient même pas d'atteindre l'objectif recherché.
Le débat reste ouvert. On marque une pause, mais c'est un débat passionnant. C'était très intéressant, absolument. Voilà pourquoi on va prolonger ce débat et aborder d'autres sujets aussi, puisque là aussi vous allez vous disputer très gentiment et avec beaucoup de respect et d'élégance, comme à chaque fois. C'était très bien.
S'engueuler.
C'était très bien, mais moi j'adore ce genre de dispute. C'est une dispute magnifique. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants sur CNews. Ça se dispute toujours en direct sur CNews, la deuxième partie avec Gabriel Cluzel et Philippe Guibert. Dans un instant, d'abord un point sur l'actualité avec Augustin Donadieu. Bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Vive émotion cet après-midi lors des obsèques de Jean-Pierre Elkabbach. Elles se sont tenues au cimetière du Montparnasse. De nombreuses personnalités politiques et médiatiques étaient présentes pour lui rendre un dernier hommage. Brigitte Macron, François Hollande, Michel Drucker, Claude Chirac, ils ont honoré la mémoire de ce monument du journalisme français décédé à l'âge de 86 ans mardi. Nicolas Sarkozy veut défendre son honneur après sa double mise en examen. L'ancien président de la République est poursuivi dans l'enquête sur des manœuvres frauduleuses pour le disculper des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il est mis en examen pour recel de subordination de témoins après la rétractation de l'intermédiaire Ziad Takieddine qui l'accusait fin 2020. Et enfin, une opération de police anti-stupéfiant d'envergure au Halle à Paris. Aujourd'hui, une centaine de fonctionnaires et de chiens spécialisés ont procédé à plus de 170 contrôles. 4 personnes ont été interpellées. L'objectif, selon la préfecture, saturer le terrain. 5 autres opérations de ce type ont eu lieu dans la région parisienne, comme à Villepinte, Bagnolet ou encore Colombes.
Merci Augustin Donadieu. Prochain point sur l'actualité à 22h. Et nos débats qui continuent, donc ça se dispute sur notre antenne, bien sûr, avec Gabriel Cluzel, avec Philippe Guibert, qui ont souhaité absolument parler des punaises de lit dans l'émission. Je sais que vous l'avez demandé. Je vous donne satisfaction. Je vous donne satisfaction. Vous le méritez. Non, notamment avec les lycées, certains lycées en France, notamment, qui ont fermé à cause de ces punaises de lit. Il y en a un à Paris qui était fermé, qui restait ouvert. Des professeurs et des élèves qui ont refusé d'entrer dans un lycée parisien, puisque des punaises de lit ont envahi certaines salles de classe. Les professeurs, notamment, ont fait valoir leur droit de retrait. Le rectorat on a décidé autrement et le lycée est resté ouvert aujourd'hui. On en parle, mais d'abord, regardez le sujet de Florent Ferraud et Mathilde Ibanez.
Dès l'ouverture de l'établissement, rares sont les professeurs ou élèves à avoir franchi les portes. Pourtant présents devant le lycée, ils sont venus manifester leur inquiétude suite à l'infection de plusieurs salles de classe par des punaises de lit.
On a dit hier qu'on était ouvert à tout pour travailler. Par contre, on n'est pas ouvert à avoir des punaises de lit chez nous et à payer 2000 euros à nos frais. Donc on n'est pas du tout ouvert à l'idée de rentrer et de se mettre en danger. Alors qu'on sait qu'il y a au moins 14 salles qui sont infestées.
Lors d'une nouvelle assemblée générale, les professeurs ont décidé de faire valoir leur droit de retrait. Mais pour le rectorat, la situation ne se justifie pas. Le lycée reste ouvert aujourd'hui.
On sait précisément quels lieux sont infestés dans l'établissement. Ça représente quelques salles en réalité. Si on prend les salles de cours, ça doit représenter 6 salles de cours. Ça signifie qu'on a ce matin 60 salles de cours qui peuvent accueillir les élèves normalement et dont on est sûr de l'étanchéité sanitaire.
Les salles infectées ont été barricadées et interdites d'accès, comme ici dans le CDI où le signalement a débuté mercredi soir. Ce lycée n'est pas le seul infecté. Plusieurs autres établissements ont, eux, été fermés ces derniers jours après la découverte de punaises de lit.
Et d'autres lycées, je le disais, qui sont restés fermés aujourd'hui, notamment à Saint-Dié-des-Vosges ou dans le Rhône encore, ou bien à Marseille également. Philippe Guibert, on n'en fait pas trop quand même avec les punaises de lit, franchement.
On en fait certainement trop, mais c'est un problème qu'on a peut-être un petit peu tardé à traiter, si j'ose dire. Dans la mesure où il y a un rapport de l'Agence de sécurité sanitaire sur les 5 dernières années, c'est 10% de la population qui a été touchée. Alors effectivement, ça ne transmet pas de maladie, mais quand vous en avez, c'est extrêmement désagréable, c'est extrêmement, épuisant et psychologiquement éprouvant. Et donc c'est un sujet qu'il faut traiter, sur lequel les pouvoirs publics, parce qu'il y a plein de ministères qui sont concernés par ça, et autant le ministère du Logement, que peut-être plus que le ministère de la Santé, dans la mesure où ce n'est pas en soi un problème sanitaire important, il n'y a pas de transmission de maladie, il y a des conséquences plus psychologiques et ensuite financières dans le traitement des punaises que de conséquences sanitaires. Mais c'est un sujet qu'il faut traiter parce qu'on est dans un contexte en plus international avec les JO où on a une presse internationale, notamment anglo-saxonne, qui régulièrement nous tape dessus avec un grand plaisir. Ils le font de façon récurrente sur beaucoup de sujets. Et donc, il faut traiter le sujet sans en faire la une de l'actualité. Mais il faut traiter le sujet. Ça a toujours existé, les punaises de lit. On avait réussi à éradiquer. Et là, par négligence dans les traitements des logements, par l'augmentation des flux,
parce qu'on voyage
de
des voyages,
on a oublié de traiter ce problème qui a explosé depuis 5 à 10 ans.
En effet, mais Gabriel Cluzel, en comparaison de la guerre en Ukraine, des victimes du trafic de drogue, en fonction des maladies, on ne meurt pas, des punaises de lit. Il y a eu à un moment donné, lorsqu'il y avait la grève des éboueurs, des rats partout dans les rues de Paris et des grandes villes également. On peut mourir si on est en contact avec une déjection d'un rat notamment. Pas avec les punaises de lit.
Oui, c'est vrai qu'on en fait beaucoup peine trop à comprendre cette espèce d'hystérie collective autour de la punaise de lit. Moi, c'est très bien que les écoles prennent le taureau par les cornes, aillent chercher des spécialistes qui s'occupent des salles de classe infectées. Je vais vous dire quelque chose. Pour avoir des enfants à l'école, il y a un autre nuisible qui ne rend pas malade, mais qui pique et qui est très désagréable et dont on peine à se débarrasser, c'est les poux. Oui. J'ai jamais vu une telle psychose autour des poux. Et pourtant, il y a quand même pas mal de similitudes. On les attrape sur les porte-manteaux, etc. Donc c'est vrai que je commence à trouver que ça fait beaucoup. Bientôt, on va voir tous les soirs, comme au moment du Covid, nous parlions du Covid, un état des lieux, des punaises de lit. J'espère qu'on ne va pas être confinés, on va nous dire qu'on est en guerre. Voyez. Bon, c'est peut-être un peu trop et on peut se demander si ce n'est pas une opération de diversion, c'est-à-dire qu'on se concentre sur des problèmes qui, de fait, sont assez répugnants.
Mais de diversion.
Tout un chacun est tout à fait dégoûté par les punaises de lit et n'a pas envie d'en avoir chez soi. Mais il y a des sujets d'actualité tellement plus importants. Vous disiez les punaises de lit, c'est pas mortel. Moi, des problèmes mortels, il y en a. Parlons de l'insécurité. S'il s'agit de s'attaquer à tout ce qui est nuisible dans notre société, parlons du trafic de drogue, par exemple.
Oui.
Donc c'est vrai que on ne parvient pas à régler les problèmes majeurs de notre pays et nos gouvernants se transforment en experts expert en insectologie.
Il y a eu une réunion interministérielle aujourd'hui dont rien n'est sorti pour le moment.
Oui, mais
bah, très bien. Bah, que ce souci-là garde sa juste place.
Ce n'est pas un fléau national, Philippe Guibert, tout de même, la punaise de lit.
Je
ne
dis pas que c'est un fléau national. Je vous déconseille fortement d'en avoir évidemment, chez vous, quand même.
Évidemment.
Et on est bien d'accord que ce n'est pas un sujet de vie ou de mort. On est tous d'accord là-dessus. Néanmoins, je trouve qu'il est temps que le gouvernement prenne des mesures par rapport aux bailleurs sociaux, par rapport Airbnb, et semble-t-il, d'après ce que j'ai compris et lu dans ce rapport de l'ANCE, est un facteur de propagation des punaises de lit qu'on avait réussi à éradiquer. Et donc je ne pense pas que c'est l'année des Jeux Olympiques où il faut que sur ce sujet, on considère que c'est un sujet... D'accord, c'est beaucoup moins grave que tout ce que vous avez évoqué. Je ne crois pas qu'il y ait de tentative de diversion. Il y a le rôle de la presse internationale, il y a le rôle des réseaux sociaux qui ont créé une mini-psychose sur le sujet, excessive sans doute, et même certainement, parce que dans le métro, semble-t-il, il n'y en a pas tant que ça, voire pas du tout. Mais c'est un sujet qu'il faut quand même traiter.
Pour les Jeux Olympiques, vous avez tout à fait raison, Philippe Guibert, mais il y a d'autres raisons de s'inquiéter pour l'organisation des Jeux Olympiques. L'insécurité, les grèves possibles, notamment...
C'est des sujets qui sont, enfin je l'espère, pris en compte. Donc,
je constate que
c'est assez incontrôlable, les grèves, néanmoins, ou les violences.
La forme d'empathie qu'ont certains écolos avec des insectes. Je pense à Émeric Caron qui se prenait d'amitié pour les moustiques. Là, les punaises de lit, tout le monde veut les discriminer, tout le monde s'en fiche. Ouais. C'est terrible.
Alors qu'on devrait les défendre.
Bah voilà,
ce
on va les appeler les surpunaises.
Mais pourquoi pas ? En tout cas, ça semble être un sujet essentiel pour une certaine partie du politique, de la classe politique française, notamment Mathilde Panot au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez sans doute vu cette séquence, mais on va la revoir quand elle interpelle notamment la Première ministre Elisabeth Borne au sujet des punaises de lit.
Madame la Première ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez ?
Je vous remercie.
Il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. Un peu de décence, Madame la Présidente.
Un peu de décence avec dans ma petite fiole, vous voyez, les punaises de lit à l'intérieur. On ignore d'ailleurs si elles étaient vivantes.
Pendant la guerre en Irak, vous vous souvenez des fioles qui avaient été sorties. Mais
Était-ce des vraies punaises.
Des vraies punaises. Mais vous vous rendez compte des mots utilisés. Non, mais on peut en rire, mais en fait, c'est grave. Elle dit, elle plonge dans le désespoir. Moi, je vais vous montrer des gens désespérés. Il y a des familles aujourd'hui qui, d'ailleurs, tendent à sortir un peu de l'anonymat et à parler. Je pense au frère de Lola qui s'est exprimé dans Factuel. Je pense à l'épouse du médecin Alban Gervaise qui s'inquiète de savoir que celui qui a tué l'assassin de son mari risque de ne jamais avoir de procès parce qu'il a été décidé, il a été jugé, que son discernement était aboli. Il y a Véronique Monguillot, l'épouse du chauffeur de bus. Il y a le père de Mégane qui s'est fait violer à Cherbourg et qui a assuré de son soutien récemment à Véronique Monguillot. Non mais ceux-là, quand ils entendent parler de désespoir à propos des punaises de lit, ils aimeraient que leurs proches en aient des désespoirs de cet ordre-là. Donc c'est vrai que sur ce point, Elisabeth Borne a raison, il y a une profonde indécence de la France insoumise.
Alors sur la France insoumise, il faut être indulgent avec eux en ce moment parce qu'ils ont une grosse affaire qui s'appelle l'affaire de Mme Sophia Chikirou qui leur pose un certain nombre de problèmes internes assez lourd, donc il faut bien qu'ils fassent, alors pour le coup, diversion sur les punaises de lit. Mais moi, j'en reste quand même à l'idée, au-delà des déclarations à la limite du ridicule de Mme Panot, j'en reste sur l'idée que c'est un sujet qu'il faut
traiter. Bien sûr, non mais même la mise en scène, avec la petite fiole et les insectes à l'intérieur, enfin, ce sont des effets de manche qui ne servent à rien.
Non, je suis d'accord. D'accord.
Et pendant ce temps-là, on oublie les vrais problèmes, peut-être.
Alors, le trafic de drogue, puisque vous en parliez, c'est un problème. Il n'y a pas de débat politique national sur le sujet. Et effectivement, alors là, je vous rejoins, je trouve que ça mériterait autrement que les punaises de lit d'avoir un débat à l'Assemblée nationale. Quelle est notre stratégie sécuritaire, sanitaire, de tout ordre face à la progression des trafics de drogue?
Ouais. Le pays peut-il être paralysé par les punaises de lit? Quand on entend... Non, mais attendez.
Lionel.
Pardonnez-moi.
Écoutez,
entre tous les professeurs,
qui ont
décidé... Non, mais là, on est dans un moment de mini-psychose collective. Mais,
évidemment. Et je vous propose d'écouter quelques téléspectateurs de CNews rencontrés dans la rue, quelques Français également, qui ont posé la question. Si vous pouviez rester chez vous pour éviter les punaises de lit, que feriez-vous? Voilà la réponse.
C'est comme tout le monde, on n'aime pas ça, mais bon, il faut bien gagner notre vie aussi. Hein, c'est... On ne peut pas arrêter de travailler juste parce qu'il y a des punaises de lit.
Si j'ai le choix, je resterai chez moi, je télétravaillerai. Et si j'ai pas le choix, j'irai travailler malheureusement.
Si j'avais le choix, j'irais pas travailler évidemment. Et je pense que je fais un travail qui me donne la possibilité d'être en télétravail. Donc si on a le choix, non, du coup j'irai pas.
Ça me dégoûte que j'aurais trop peur de les ramener chez moi et que je sais qu'une fois qu'elles sont chez nous, on peut pas s'en débarrasser.
Si ça continue comme ça, Philippe Guibert, on va revivre la situation du Covid.
Non, je crois pas.
Les gens vont porter des masques, attention les punaises de lit, on reste à la maison, on télétravaille.
Non, mais là, non, c'est pas sérieux tout ça.
J'espère.
J'espère aussi, mais non, franchement, alors autant j'ai défendu l'idée que s'il fallait le traiter, autant je crois qu'on peut pas, il faut pas aller plus loin. Il faut simplement, ça pose, alors si on rentre dans le détail, ça pose des problèmes d'assurance habitation, ça pose des problèmes de coût, parce qu'il y a... Il y a le coût psychologique, mais il y a le coût parce que les traitements sont chers, ils ne sont pas tous efficaces.
Bien sûr.
Ils ont des effets pervers parce qu'il y a des traitements chimiques. Là aussi, l'agence sanitaire dit attention aux traitements chimiques. Donc tout ça coûte de l'argent, coûte du temps. Et voilà. Mais après, je suis d'accord que nous n'allons pas rester chez nous à cause des punaises de lit. Ça, certainement pas.
Moi, je crois que tout est possible. Non, est-ce que vous auriez imaginé?
Non,
très sérieusement, je ne pense pas.
Non, on n'espère pas.
Voilà, mais c'est vrai que nous avons connu des séquences dans ce pays.
Il y avait des centaines de morts quand même.
L'hystérie collective, mais il faut faire attention à ne pas laisser monter l'hystérie. Et moi, je suis quand même frappée de voir, et je comprends, moi je serais un élève, on me laisserait le choix, je chercherais des punaises de lit partout dans la salle de classe pour essayer de rester chez moi.
Qui est en train de s'installer avec la punaise de lit. Moi-même, je vous dis, en prenant les transports en commun ou en venant en voiture, je regarde s'il n'y a pas de punaise de lit.
Non, mais vous imaginez
On rentre pas de punaise de lit, je ne fais pas rentrer de punaise de lit chez moi. Je suis très sérieux. Il y a une psychose qui s'est installée.
Non, mais nous sommes quand même devenus collectivement un peuple fragile.
Exactement.
Parce que nos ancêtres, nous honorerons le 11 novembre, s'ils nous voyaient, et puis la vermine, ils en ont eu dans les tranchées, je crois. Donc s'ils nous voyaient terrorisés avec les punaises de lit, ce serait pas très
Exactement. Je voudrais qu'on termine avec un sujet qui est un sujet important également. On se souvient que le pape François est venu à Marseille. Ça a été une visite très médiatisée, qui a été aussi très utile, en tout cas qui a marqué l'histoire d'une certaine manière. Mais il manque 500 000 euros au diocèse de Marseille après l'organisation de cette visite en grande pompe. En effet, il y a eu la messe au stade Vélodrome. Pour réunir cette somme colossale, parce que ça a coûté 2,3 millions tout de même la venue du pape François, mais pour combler ce déficit de 500 000 euros, le cardinal archevêque Jean-Marc Aveline a lancé un appel aux dons. Laure Parra et Célia Gruyère.
C'était une visite en grande pompe qui a coûté pas moins de 2,3 millions d'euros. La venue du pape à Marseille s'est révélée plus chère que prévu. 500 000 euros manquent pour boucler le budget. Alors, le diocèse se tourne vers ceux qui ont pu participer à l'événement.
On essaye de toucher les personnes qui, à travers les moyens déployés, et notamment ces écrans géants, la retransmission, etc., ont pu vivre cet événement, ont été touchés. Et voilà, c'est à eux qu'on s'adresse aussi en leur disant tout ça, ça nous a coûté des sous. Et donc voilà, maintenant, on fait appel aussi en disant aidez-nous simplement à boucler le budget.
1,8 million a déjà été financé par les dons de mécènes, de partenaires ainsi que la quête de la messe ou la vente de goodies. Pour les 500 000 euros manquants, l'appel aux dons commence déjà à porter ses fruits.
On est très très touchés parce que depuis qu'on a commencé cet appel aux dons, très vite, il y a des appels qui sont arrivés. J'ai entendu l'appel, je vais faire un don. Il y a des dons en ligne qui sont arrivés, etc. Donc on voit qu'on est très confiants. En fait, on sait que cet événement, il a vraiment rejoint les gens, il a touché les cœurs. Ça a été un beau moment pour toute la France.
Et pour faire un don, il est possible de le réaliser en ligne. Il suffit de se rendre sur la page du diocèse de Marseille où un lien renvoie directement sur un formulaire.
À votre bon cœur, messieurs, dames, j'ai envie de dire, Gabriel Cluzel, les fidèles doivent-ils payer pour la venue du pape, dont ils ont sans doute bien profité, dont ils ont bénéficié, tout le monde était rayonnant.
Je vais vous dire le fond de ma pensée, je suis catholique, pratiquante, mais je trouve que la communication n'est pas heureuse du tout. Parce que
vous le disiez vous.
Voilà, ça donne ce sentiment pénible que l'Église, en l'occurrence pour cet événement, a vécu au-dessus de ses moyens, a fait des dépenses. Fait des frais dispendieux et je trouve que c'est assez malvenu, surtout dans le contexte d'un voyage papal qui entendait dire aux fidèles, qu'il leur a dit assez durement d'ailleurs, hein, ils se sont fait un peu taper sur la tête, hein, vous êtes égoïste, il faut vous occuper des migrants qui sont pauvres. Donc si vous voulez, c'est quand même 550 000 euros, c'est une somme rondelette, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une belle maison, je ne trouve pas, à titre personnel, que ce soit une communication heureuse, d'autant que les fidèles n'ont pas toujours tout, enfin, se sont pas toujours sentis compris, hein, par ce pape qui a dit juin à Marseille, mais pas en France, qui a toujours un peu de distance avec l'Europe, et avec la France en particulier. Donc c'est vrai que j'ai quelques doutes sur la pertinence de cette affaire.
Oui. Et puis vont-ils obtenir ces 500 000 euros? Le diocèse, en tout cas, va-t-il obtenir les 500 000 euros? C'est une somme considérable. Les fidèles ont-ils vraiment les moyens? Absolument. Et il faut savoir, en plus, Philippe Guibert, que les collectivités locales ont mis la main à la poche pour constituer cette somme de 2,3 millions au total. Ce ne sont pas que les fidèles, ce n'est pas que l'Église, ce sont aussi les collectivités locales, à Marseille notamment.
Il faut faire attention, parce que je comprends que les collectivités locales aient envie d'aider à la réalisation d'un tel événement qui dépasse les catholiques. Mais attention, on est quand même dans un pays laïque, hein, donc il faut faire attention sur les subventions à un moment donné, ou alors sinon, si on accepte ça, on va avoir d'autres demandes qui nous feront moins plaisir. Et donc, je suis un peu étonné, moi aussi, je dois dire que sur ce point, Gabriel, je serais assez en accord avec vous, je suis un peu étonné par le budget de 2,3 millions global qui est donné pour ce voyage, et je m'imaginais, mais je ne suis pas spécialiste, que le Vatican, qui n'est pas dans la misère totale, à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, pourrait peut-être contribuer un petit peu. Parce que dans le voyage du pape, il y a une dimension spirituelle, religieuse, qui est extrêmement respectable. Et puis, le Vatican est aussi un État. Et donc, même fut-il tout petit.
Mais le pape est une star également.
Oui, mais une star. Mais je ne vais pas faire des comparaisons avec Michel Sardou. Le pauvre, il est obligé d'annuler deux spectacles. Mais
il est un peu grippé, effectivement, pour.
Mais voilà, je pensais que l'Église, le Vatican, allait contribuer plus que ça, plus que c'est le cas, à un déplacement du pape pour un montant, quand même, qui est important, je suis d'accord.
Mais oui, mais Gabriel Cuisel, il y a eu la sécurité, évidemment, et c'est bien normal.
Alors, ça, que la sécurité, que les pouvoirs publics y contribuent, c'est tout à fait normal.
Et le stade Vélodrome aussi, qu'il a fallu louer, c'est-à-dire que la mairie aurait très bien pu. Avait-elle le droit de le faire, mais aurait très bien pu céder le stade. Or, ça n'a pas été le cas. Il y a eu une facture, c'est-à-dire qu'on a payé une somme considérable, là aussi, pour utiliser le stade Vélodrome.
Oui, alors là, c'est vrai qu'on aurait pu attendre que la mairie de Marseille fasse un geste et fasse l'ardoise. Mais je trouve que, là encore, c'est vraiment un point de vue tout à fait personnel, mais je trouve que l'annonce de ces sommes considérables n'est pas bonne pour ces classes moyennes catholiques, par exemple, les fidèles, qui sont sommés, encore une fois, d'aider les migrants. Vous savez, il ne faut pas jamais que l'Église donne le sentiment d'être avec l'élite toussounée de ce chant, vous devez connaître, vous, des canuts, pour chanter Veni Créateur, il faut avoir chasuble d'or, nous en tissons pour vous de grande l'Église. Il faut faire attention à ne pas creuser un écart avec les fidèles. Alors, ce monsieur de la communication du diocèse dit que les dons affluent, tant mieux pour lui. C'est vrai que je comprenais mieux les dons pour Notre-Dame que pour la visite du pape, par exemple.
De là, arriver à constituer 500 000 euros uniquement sur la foi, sur spéculer aussi sur la venue du pape aussi. C'est un amortissement. Enfin, on a l'impression que c'est un business, que la venue du pape et que la religion catholique est devenue un business, Philippe Guibert.
Mais c'est très compliqué parce que vous parliez de la mairie de Marseille. Est-ce dans quelle mesure elle pouvait faire un geste, entre guillemets?
C'est comme un chef d'État.
Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, du point de vue de la légalité, jusqu'à quel point, je ne suis pas assez spécialiste, je ne veux pas trancher, mais jusqu'à quel point la légalité permettait à la mairie de Marseille de faire un vrai cadeau
dans un État laïque, etc., avec la séparation de l'Église et de l'État.
Pas de tant de subtilité quand il s'agit de rupture de jeûne, par exemple.
Oui, mais justement, Gabriel l'a cité, il faut l'appliquer un peu dans tous les cas, parce que sinon on se met en porte-à-faux. Donc voilà, mais peut-être qu'il y avait des possibilités juridiques. Je trouve quand même, je redis, que effectivement c'est un État, le Vatican, et donc il doit assumer aussi ses déplacements.
Il semble que ce ne soit pas le cas. Plus de détails si ça vous intéresse, parce que ce sujet passionne en effet, dans Enquête d'Esprit, dimanche, entre 13h et 15h30, car un documentaire exclusif sera consacré à la visite du pape François, justement.
Et par ailleurs, donc, était très intéressant, je le dis.
Un très grand moment, mais 2,3 millions. Est-ce que c'est le juste prix? C'est la question à laquelle nous essaierons de répondre dimanche également sur l'antenne de CNews. Merci à tous les deux, merci d'avoir participé à Ça se dispute. Dans un instant, Olivier de Kerenfleck sur Soir Info et sur CNews.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.